les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué go sport en grève. D'autres termes hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Et vendredi, c'est 19h et donc c'est l'heure du Canu Info.
Et oui, et en ce vendredi 26 avril, on vous parlera de la journée mondiale de la visibilité lesbienne.
Et puis ensuite, à la rubrique nationale, on vous parlera de l'affaire Kenji Girac. Non pas pour vous parler de l'affaire Kenji Girac, parce qu'on s'en fout un petit peu, mais du traitement de l'affaire Kenji Girac et comment c'est un cas d'école d'anti-tsiganisme. Et puis on fera un petit pont avec le fait que ça fait un lien avec la lutte des voyageuses contre le racisme environnemental.
Et puis on aura du côté de chez Michelin, où on parle de salaire décent, mais on parle surtout du retour du capitalisme paternaliste.
Malheureusement, il y a aussi des mauvaises nouvelles côté féminisme avec la condamnation pour viol de Weinstein qui a été annulée.
Tout à fait. Et puis, en Italie, des associations anti-IVG qui auront bientôt le droit d'entrer directement dans les cliniques italiennes. Là aussi, une nouvelle un peu effrayante.
Et on ira après du côté de l'international au Royaume-Uni qui va expulser toute une partie de la population qui n'a pas de papier vers le Rwanda.
Et enfin, évidemment, la rubrique animaux avec Beach, un livre qui réhabilite le féminin chez les animaux.
On enchaînera évidemment avec la rubrique agenda. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine et dès ce week-end? Et puis, on est toujours à la recherche de savoir ce que veut dire le terme ACAB ou ACAB. Si vous savez, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15.
Et oui, avant même la rubrique locale, on avait envie de vous faire un petit point agenda parce que aujourd'hui, comme c'est le 26 avril, c'est la journée mondiale de la visibilité lesbienne. Alors bravo les lesbiennes, on va visibiliser les lesbiennes. C'est quand même... alors on s'en fiche un peu hein, des jours pour dire qu'il faut parler qu'un jour dans l'année, en vrai, il faut visibiliser les personnes et les minorités chaque jour. Mais finalement, ça donne quand même l'occasion de remettre en lumière les expériences, les luttes, les réalisations des lesbiennes à travers le monde, puisque c'est une journée mondiale qui a été lancée pour la première fois en 2008 et donc qui vise à combattre l'homophobie, la lesbophobie et à promouvoir l'égalité des droits. Ça permet de redire par exemple qu'en dépit des progrès qui ont été quand même réalisés ces dernières décennies, les lesbiennes continuent de faire face à énormément de discriminations. Par exemple, selon une étude de l'ILGA, l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, plus de 70% des lesbiennes interrogées ont rapporté avoir subi une forme de discrimination en raison de leur orientation sexuelle. C'est une statistique qui reste alarmante et qui souligne l'importance cruciale de cette journée dédiée à la visibilité, qui souligne surtout qu'il faut que cette journée soit aussi pensée les jours qui viennent. Ça nous permet de vous annoncer que la collective lesbienne contre le patriarcat organise dimanche 5 mai la 4e Dyke Marche de Lyon. Elles espèrent donc vous voir nombreux et nombreuses à cette marche-là. C'est dimanche et donc vous pourrez retrouver dimanche le collectif Lesbiennes contre le patriarcat pour participer à cette marche.
Dimanche 5 mai.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane
Boulay. En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Reportage sur la grève qu'on a
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Eh bien, on commence au local par vous donner des petites nouvelles de nos voisins, d'ondes. Parce que sur le 89.8 FM, c'est Radio Nova Lyon qui émet, mais qui n'émet pas pour encore longtemps, puisque elle va cesser d'émettre au niveau local fin mai, du coup, dans un mois. Elle émettait, du coup, depuis 2017 sur cette fréquence. Alors, la fréquence 89.8 FM va pas s'arrêter, mais va diffuser la programmation nationale. Cette fermeture serait liée à des audiences insatisfaisantes pour la direction. Mais quand on regarde un peu nationalement, les chiffres avaient pourtant l'air bons et rien n'indiquait que les résultats de l'antenne lyonnaise étaient décevants. Au contraire, entre janvier et mars 2024, les audiences auraient triplé, passant de 12 000 à 36 000 auditeurs et auditrices. Donc, alors pourquoi est-ce que ça ferme ? On peut imaginer que c'est pour des raisons économiques, ce que l'antenne locale coûte un loyer et des frais d'émetteur, et qu'elle emploie aussi 2 salariés. Et qu'il faut savoir aussi qu'en tant que radio commerciale, le prix de la publicité est indexé sur les chiffres d'audience. Alors peut-être que ce n'était pas assez de chiffres d'audience pour permettre ça. C'est quand même un peu triste parce que les antennes locales, ça permet toujours de faire vivre la culture locale. Alors ce n'est pas forcément exactement les personnes ou les institutions que nous, on a envie de promouvoir toujours sur Radio Canu. Il n'empêche qu'on promeut la radio FM et la radio locale. Du coup, moi, je trouvais que c'était quand même une mauvaise nouvelle que l'antenne de Radio Nova ferme. Pour rappel, la maison mère Radio Nova a été rachetée en 2016 par le banquier Mathieu Pigas et appartient au groupe Combat qui détient notamment les Inrecuptibles et le festival Rock en Seine. Donc c'est quand même des énormes machines derrière cette radio. Donc on peut dire que cette fermeture est une mauvaise nouvelle pour la culture lyonnaise. Il faut quand même se rappeler que quand Radio Nova est arrivée en 2017, tout le monde n'était pas hyper content de voir arriver cette radio commerciale. Parce que déjà là, il y avait un bond, puisqu'avant, c'était la radio communautaire historique Trait d'Union qui avait ses ondes RTU hein, pour les intimes. Et du coup, c'est une radio commerciale qui est arrivée en mutualisant ses programmes avec ceux de Radio Nova. Et évidemment, à ce moment-là, Radio Canu avait critiqué l'arrivée de Radio Nova Lyon. Et enjeu notamment, c'est l'inévitable augmentation des plages publicitaires, puisque interrogé à l'époque par Rue89, donc Alfredo Da Silva, qui est le directeur de ce qui allait devenir Nova Lyon, avait tenu à rassurer, disait, ce ne sera pas plus de 6 pubs à la suite, soit environ 3 minutes par heure. On tentera de sélectionner des publicités qui peuvent intéresser nos auditeurs quand c'est possible. Il n'empêche que bon, avant 2017, c'était une radio associative sans publicité. Ce que ça a fait aussi, c'est que ça a participé à la guerre des radios, puisque déjà à l'époque, c'est également le changement de catégorie de radio qui posait question. Parce que Radio Trait d'Union, c'était dans la catégorie A. Et la catégorie A, ça veut dire un service de radio associatif accomplissant une mission de communication sociale de proximité, un peu comme on fait à Radio Canu. Et en 2017, avec Radio Nova, c'était passé à la catégorie C, ça veut dire service de radio locale ou régionale diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale. Ça veut surtout dire une radio commerciale. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même un peu triste, mais pas trop, qu'il y ait plus de radios associatives, que quand même ça s'inscrit dans un contexte où il y a de moins en moins de médias lyonnais, et ça quand même on peut dire que c'est triste. On voit que Rue 89 il galère quand même régulièrement, on peut quand même citer que Hétéroclite, qui était un média culturel et LGBT, a cessé de paraître en juin 2023, et qu'il y a quand même du coup de moins en moins de médias indépendants, ou en tout cas locaux, puisque Radio Nova Lyon n'était pas indépendant, mais avait du coup une production locale. Et ça, pour le coup, on peut le déplorer.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, et donc on va vous parler de l'affaire Kenji Girac dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, lorsqu'une balle de revolver est venue transpercer le torse du chanteur à succès Kenji Girac. Et tout le monde s'est souvenu de son existence. Et tout ça s'est aussi passé sur une aire d'accueil des gens du voyage à Biscarrosse, et ça va avoir une petite importance puisque depuis, toute la presse nationale s'excite totalement sur le sujet. Alors, on s'en fout un peu de l'affaire, mais on va quand même dire une chose. Selon sa compagne et ses propres dires, il semblerait que Kenji Girac, qui a tout l'air d'être un gros mascu, se soit en fait tiré dessus volontairement pour faire du chantage au suicide à sa compagne qui menaçait de le quitter. Donc le prisme d'analyse, là, assez logiquement, il devrait plutôt se situer du côté des violences sexistes et des violences faites aux femmes. Et dans un premier temps, bah, c'est là-dessus qu'il y aurait dû avoir peut-être un peu de silence, un peu d'attente qui est éventuellement des éléments. Mais c'est pas vraiment ce qu'a fait la presse française. Et d'ailleurs, depuis que maintenant on sait que c'est ce chantage au suicide qui a été effectué, on a quand même des médias qui font des titres absolument affreux sur encore un drame conjugal, etc. Alors que non, c'est juste du masculinisme dégueulasse. Bref. Mais c'est pas ce qui s'est passé pour une bonne raison, c'est que Kenji Girac est d'origine gitane catalane et parce qu'il s'est tiré dessus sur une aire d'accueil pour gens du voyage. Et donc depuis 5 jours, en fait, on assiste à un traitement médiatique qui relève de l'antiziganisme, hein, donc cette catégorie de racisme particulier qui touche les voyageurs et voyageuses, puisque c'est le nom qu'eux et eux-mêmes se donnent, plutôt que celui de gens du voyage, qui est une catégorie administrative que leur donne l'administration française. Et pendant 5 jours, eh bien, radio, télé, journaux se sont relayés pour répandre la thèse d'un tir accidentel ou d'une agression dans un monde, celui des voyageurs, qui serait évidemment extrêmement violent, rustre, et dans lequel tout le monde serait armé. Alors, on va pas détailler par le menu tout ça, mais bon, on a quand même eu des tas d'articles qui dénonçaient sur la base de rumeurs la violence intrinsèque de la communauté voyageuse. Devant l'aire d'accueil de Biscarros, un journaliste de BFM TV évoque face caméra l'omerta, la loi du silence. Personne ne lui parle pour plein de raisons bizarres. Et puis il écrit « Tout à l'heure, il y avait des enfants qui en quelque sorte menaient la garde pour empêcher les journalistes de pénétrer à l'intérieur. » Enfin, plein de trucs complètement paranoïaques. Le Parisien recourt au vocabulaire du clan pour décrire les proches du chanteur d'origine gitane catalane et les autres habitants et habitantes de l'air, parfois désignés aussi par le mot camp. Alors le mot camp, c'est un mot que les voyageuses et voyageurs n'aiment pas, puisque bah, en fait, il fait référence au camp d'internement dans lequel ils et elles ont été enfermés durant la Seconde Guerre mondiale, et même un peu après, hein, d'ailleurs, hein, puisque ça n'a pas été en 1945 qu'ils ont été libérés, puis certains ont aussi été envoyés en camp d'extermination. BFM TV encore est carrément allé chercher un membre des Gypsy Kings pour le faire réagir sur son plateau, car comme chacun, chacune le sait, évidemment, entre un chanteur voyageur et un autre chanteur voyageur, bah, c'est un peu tous les mêmes quand même. Hein. Et dans des émissions diverses, on a pu entendre des clichés absolument fous. Là, je vais vous diffuser par exemple, attention, propos racistes qui arrivent, ce qu'on pouvait entendre dans la bouche de l'humoriste Philippe Cavé-Rivière sur RTL. Je m'en fous d'écorcher son nom.
J'ai entendu les premiers témoignages sur BFM de la famille et des voisins. Alors, en gros, c'était « Quand il a fait la caravane, il n'a pas fait exprès, il est avec le cousin, il s'est tiré une pistole, il a acheté un brocante, il a pris une balle dans le buffet, après il a acheté l'arme dans le buisson. »
Bon, bref, ben, c'est très clair.
Je vous livre les meilleurs extraits en brut.
Voilà, on est à peu près sur la qualité d'humour de Michel Leeb, hein, pour situer dans le racisme. Racistomètre français de l'humour. Et donc, l'un de ceux qui rigole quand même dans cet extrait absolument raciste, eh bien, c'est l'animateur des matinales de RTL, Yves Calvi. Et alors, le même Yves Calvi, il a un petit passif sur le sujet, puisqu'il avait présenté et préparé, il y a 19 ans quand même, un numéro de C'est dans l'air qui s'appelait « Délinquance, toutes les routes mènent au Rhum ». Et donc, le jeu de mots est peut-être valable, mais en revanche, tout cet épisode était tout à fait raciste. Et donc, il y avait une condamnation de son émission à l'époque. Voilà. Et donc, comme l'explique William Acker, hein, qui est le délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen sur son compte Twitter, bah, tout ça, tous ces rires, etc., c'est peut-être pas grand-chose, diront certains. Pourtant, rire des Roms, rire des Gitans ou des Manouches, c'est convoquer un imaginaire qui puise dans une longue histoire de la caricature anti-tsigane qui a donné ce qu'on sait qu'elle a donné. Cette séquence sur l'affaire Kenji Girac peut paraître anodine et anecdotique, elle révèle pourtant au grand jour, et sans précaution ni filtre, les inconscients et les idéologies à l'œuvre depuis quelques siècles en France et dont cette société est encore totalement imbibée. Savoir si l'on peut rire de tout n'est pas la question qui nous intéresse au fond, précise-t-il. Celle qui me paraît vraiment importante, c'est de savoir pourquoi cela nous fait toujours rire. De manière très illustrative du traitement, on a aussi eu droit à un extrait de Quotidien. Donc Quotidien, c'est l'émission phare de la chaîne TMC animée par Yann Barthez. Alors l'extrait, il est particulier, il est tourné sur l'aire d'accueil d'Hélène Ronchin. Hélène Ronchin, c'est à côté de Lille.
L'affaire Kenji Girac a pour point de départ un coup de feu. Omeya avait donc une dernière question.
C'est courant qu'il y ait des armes qui circulent dans les aires d'accueil de gens de voyage ?
Non, il n'y a pas d'armes, on ne peut pas s'amuser. On n'est pas des gens comme ça, nous. Ben oui. Il n'y a pas d'armes. C'est rien, on est famille. Pourquoi il y aura une arme ? On est en famille.
Ici, c'est plus des coups de poing, tu vois, ici. Si par exemple on va se chicaner, ben, une heure, deux heures après, on est toujours ensemble.
tu vois. Même si on est, même si, si on s'est embrouillé, tu vois, une heure après, on sera toujours ensemble.
Et vous, vous pensez en acheter une arme?
Non.
Voilà, le ton est totalement hallucinant, tout le monde rigole sur le plateau, tout se passe bien. Et si les voyageurs s'en sortent pas si mal dans cet extrait, en fait, dans leur réponse, ça sent quand même carrément le piège, hein, la question tendue pour avoir une réponse un petit peu dégueulasse. Précision, hein, Quotidien est venu donc sur l'air d'Hélène Ronchin en réaction en fait à la mobilisation d'un collectif de femmes d'Hélène Ronchin contre les pollutions qu'elles vivent et qui tuent au quotidien sur ces airs. Donc en fait, ils leur ont fait un faux plan en leur venant finalement leur parler de Kenji Girac et faire un sujet sur Kenji Girac et sur les armes chez les voyageurs. Ce qui a logiquement entraîné une réaction du collectif, donc le collectif de femmes d'Hélène Ronchin qui s'appelle Dasovas.
Coucou tout le monde, je vous fais un petit message pour vous parler d'un média, un média où on a apparu hier soir, Quotidien. Je pense que tout le monde connaît Quotidien. Quotidien est connu pour dénoncer les trucs qui sont cachés au niveau des politiciens et surtout pour mettre en avant, soi-disant, la vérité. Vérité que nous, gens du voyage, encore une fois, on n'a pas pu le droit d'en avoir. Ils m'ont contacté pour dire qu'ils vont mettre en avant le fait qu'on soit discriminé, casser les discriminations. On a mis en place qu'on voulait parler de notre combat, de la charte et tout ce qu'on manifeste. Mais malheureusement, ils n'ont rien pris en compte. Ils ont même filmé les garçons de chez nous dans notre dos. Ils ont refait dire des trucs qu'on n'est pas du tout d'accord avec eux. Le fait que les gens du voyage respectent pas la loi et se font la loi entre eux, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, nous, notre association se bat pour nos droits et met en place les droits. Pourquoi nous, on respecterait pas cette loi qu'on veut justement mettre en place pour nos gens? Donc c'était vraiment très discriminant pour notre association, le fait qu'on passe pour des étrangers et je ne sais quoi. Et les enfants qui ont dit tout et n'importe quoi, on n'a même pas vu avoir un droit d'image, ça a été publié, donc à médiatiser. Et franchement, moi je trouve que c'est du grand n'importe quoi, alors que Quotidien est connu normalement pour dévoiler les faits. Là, ils ont plus enfoncé les discriminations. C'était pas du tout ce qu'ils nous ont promis. Donc, moi, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Je veux pas m'énerver. C'est un média. Mais je veux juste faire tourner ce petit message pour qu'ils comprennent qu'on n'était pas d'accord ce qui a été diffusé sur Quotidien. Et ce serait vraiment super que Quotidien s'excuse. On sait, c'est gros pour notre petite association. Mais je pense qu'on a le droit à ces excuses. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, faites tourner. Merci.
Et ben on fait tourner, et en attendant, évidemment, Quotidien ne s'est pas excusé. On comprend dans ce qu'elle raconte aussi qu'il y a eu d'autres extraits que celui que je vous ai diffusé. On va pas diffuser l'intégralité de cette émission pourrie. Mais on voit bien le traitement qui a été réservé, et notamment ce truc complètement mesquin de dire on vient vous parler d'un truc, on vient mettre en avant les discriminations que vous subissez, et finalement on fait un traitement putassier. Le terme gens du voyage, qui est quand même utilisé notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, il recouvre donc une catégorie administrative qui a succédé en 69 à celle de nomades et qui regroupe pêle-mêle gitans, manouches, roms, sinti, yéniches, ces personnes qui ont pour obligation légale de résider sur des terrains dédiés qu'on appelle aires d'accueil, souvent pollués et isolés. Les femmes d'Hélène Ronchin, dont on a entendu la porte-parole, luttent en fait depuis 2013 contre les pollutions qu'elles subissent et espéraient ici parler de leur lutte. L'association Dasovas a été fondée en 2022 par ces voyageuses. Elle est issue de longues années de lutte, en fait, sur cette question de justice environnementale. Au-delà des volontés de faire progresser la question des discriminations dans les médias, là ça a un peu échoué, Dasovas défend la possibilité des voyageuses et voyageurs de se battre pour elles et pour eux-mêmes. Le plus difficile pour les gens du voyage, c'est de savoir qu'ils ont des droits. Toute leur vie, ils se sont fait écraser, alors que c'est dur de se relever et de les réclamer. Pourtant, on est des gens du voyage et on est français, souligne donc sous Hélène de Mestre, qu'on vient d'entendre, dans les colonnes du site Rapport de Force. Le 12 avril, les femmes de Dasovas ont organisé une marche pour la dignité, qui défendait notamment la mise en place d'une charte de droits pour les voyageuses et voyageurs. Hein, c'est à cette charte dont elle faisait référence dans l'extrait qu'on a entendu. Et en cause, notamment, une dégradation récente des relations avec les employés de la métropole intervenant sur les 17 aires d'accueil du territoire. L'association dénonce notamment une recrudescence du tutoiement, des menaces, des intimidations, des sanctions injustifiées et des expulsions arbitraires. C'est-à-dire que les aires d'accueil, c'est les seuls endroits qui sont censés être temporaires dans lesquels les voyageuses et voyageurs sont libres, enfin en tout cas la possibilité de s'installer, mais c'est aussi des espaces qui sont très contrôlés, avec des gardiens, avec la possibilité de se faire exclure, etc. À Hélène Ronchin, La lutte en cours depuis 2013, en fait, elle se fait au départ sur le fait que les enfants tombent malades à cause de l'entourage immédiat de l'aire d'accueil, hein, et notamment à cause d'un produit spécifique qui est particulièrement présent, qui est le plomb, et notamment en fait beaucoup d'enfants qui ont engendré le fait de cette mobilisation des femmes d'Hélène Ronchin, en fait ils ont le saturnisme, hein, donc cette maladie qui est provoquée par le plomb. Ce que subissent les habitants et habitantes de l'aire d'Hélène Ronchin peut être qualifié de racisme environnemental, et ça concerne aussi de nombreux et nombreuses voyageurs et voyageuses. Et parmi les personnes que BFM TV a contactées et qui ont un peu dénoncé la bêtise et le racisme, y compris de cette invitation, hein, en disant bah, en gros vous êtes tous pareils, vous les gens du voyage, il y a William Acker, hein, dont j'ai parlé précédemment, et qui est aussi l'ouvrage de il est l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle Où sont les gens du voyage, qui dresse une cartographie du racisme environnemental dont sont victimes les voyageurs. Et Minuit décousu, donc une émission des mardis soirs sur Canu, diffusait justement ce mardi un entretien avec lui où il expliquait ce en quoi consiste le racisme environnemental.
C'est une notion qui a émergé aux États-Unis, dans les mouvements pour les droits civiques, chez des personnes noires afrodescendantes américaines, qui constataient que leur quartier, majoritairement noir, étaient des quartiers aussi majoritairement beaucoup plus pollués que les autres. Et donc il y avait un lien entre l'assignation raciale et les inégalités environnementales, les atteintes environnementales qu'on subissait. On vivait moins longtemps en étant noir qu'en étant blanc, aussi parce qu'on vivait dans des quartiers plus pollués. Cette question-là de racisme environnemental, ben par exemple des gens comme Malcolm Ferdinand peuvent réutiliser ces notions-là dans les espaces dits ultra-périphériques, ultramarins, dans toute la Caraïbe et l'Amérique du Sud, pour des questions liées par exemple à des scandales sanitaires. Alors c'était le cas du chlordécone, avec un scandale sanitaire qui intervient sur l'usage d'un pesticide pour lutter contre le charançon de la banane, qui est interdit ce pesticide dans toute l'Europe. On sait qu'il est cancérigène depuis les années 70, et pourtant on a, sous la pression du lobby de la banane, qui est tenu majoritairement par des familles de béquets, donc des descendants d'esclavagistes qui possèdent une grosse part de l'économie antillaise, on a autorisé l'usage de ce pesticide qui fait qu'aujourd'hui 9 Antillais sur 10 ont dans leur sang et dans leurs cheveux la présence du chlordécone, et qui fait que les Antilles ont un des taux les plus forts au monde de cancer. On n'aurait jamais fait cet usage-là sur des populations blanches en Aveyron. Dans les anciens espaces colonisés, il est facile de trouver de la matière pour cette notion de racisme environnemental. Dans l'Hexagone, beaucoup plus difficile. On est quand même le pays qui voit pas les couleurs. On est pays de l'universalisme républicain, de l'égalité entre les citoyens. On est un pays qui n'utilise pas la statistique ethnique. On est un pays un peu unique, en ce sens, sur la conception de la citoyenneté, sur un principe d'égalité, etc. Ben, sauf qu'on a les gens du voyage. C'est-à-dire des personnes qui sont visées pour leur origine supposée, puisque c'était les anciens bohémiens et romanichel au 19e siècle qui sont devenus nomades puis gens du voyage. La définition des gens du voyage dans le droit, c'est l'article 1 de la loi Besson qui dit les gens du voyage sont des personnes qui vivent en habitat mobile traditionnel. Le terme traditionnel, il n'y a rien de plus racialisant que ce terme-là. Hein. Pour être gens du voyage, il faut avoir des ancêtres qui sont gens du voyage. Ça, c'est rite d'être gens du voyage. Et des gens qui ont eu des phases de persécution très importantes en France et en Europe, dont le racisme est encore très très fort, très très présent, qui sont assignés à des lieux spécifiques entre eux et sous surveillance, et des lieux choisis par l'État et qui sont majoritairement pollués. Bah, pouf, on a toutes les données du racisme environnemental. Ceux qui vivent dans les quartiers populaires aussi vivent dans des quartiers qui sont plus susceptibles d'être pollués, qui sont plus impactés par le réchauffement climatique, du fait de leur conception, du fait de leur mode d'habitat, du fait que les bâtiments soient mal conçus, de plein de choses. Et puis aussi du fait de la pauvreté, hein, et ça c'est une certitude aussi. Aujourd'hui, les voyageurs, leur espérance de vie, elle est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Et je pense que les personnes dans les quartiers populaires aussi. Alors évidemment, la question de l'impact environnemental ou des inégalités environnementales ne définit pas à elle seule les raisons de cette espérance de vie réduite. Mais quand même, c'est quand même un vrai sujet.
Et c'est un vrai sujet. Et pour le mettre en évidence, eh bien, William Acker, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réalisé une cartographie de toutes les aires d'accueil de France et mis en évidence où sont situées les aires, à côté de quoi elles sont. Et c'est bien souvent, en fait, dans des espaces où les nuisances et les pollutions sont particulièrement fortes. On l'a vu avec l'exemple de l'aire d'Hélène Ronchin, mais c'est malheureusement pas une exception.
J'ai cherché à localiser toutes les aires d'accueil en France. Donc, au début, j'ai repris tous les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Chaque département en France a un schéma, en gros signé par le préfet, décidé par les élus, qui désigne à peu près toutes les villes qui, obligatoirement, doivent avoir une aire d'accueil. Donc, ils donnent en gros hein, les responsabilités de chaque ville de plus de 5000 habitants, puisque c'est les villes de plus de 5000 habitants qui doivent avoir une aire d'accueil, généralement. Je suis allé vérifier si chacune de ces villes avait une aire d'accueil. Donc ça a pris un certain temps, puisque des villes de plus de 5000 habitants, il y en a quand même un petit nombre en France. Il a fallu évidemment, pour affiner tout ça, croiser plusieurs sources, notamment des appels de marché public, puisque toutes les gestions des aires d'accueil sont déléguées auprès de... Enfin, beaucoup de gestion est déléguée auprès d'entreprises privées. La construction des aires d'accueil aussi est déléguée auprès d'entreprises privées. J'ai épluché pas mal la presse, puisque chaque ouverture d'aire d'accueil, dégradation, fermeture, suscite dans la presse locale un article ou une brève. Et puis ensuite, je me suis beaucoup servi aussi de pétitions anti-aire d'accueil. Pour chaque projet d'aire d'accueil, il y a toujours une pétition de riverains qui s'y opposent. Ces pétitions, elles sont intéressantes parce que elles m'ont fourni déjà beaucoup d'indicateurs géographiques. Mais surtout, elles sont intéressantes parce que on peut décortiquer un argumentaire. Lorsqu'on s'oppose à un projet d'aire d'accueil, le premier argumentaire qu'on va mobiliser, c'est l'argumentaire écologique. On va dire, cette aire d'accueil est implotée dans une zone qui va détruire un espace naturel, qui va porter atteinte à une qualité de paysage, etc., etc. C'est le premier argument. Quand il n'y a pas cet argument, on va développer un autre argumentaire qui est potentiellement celui de la santé des occupants. En disant, bah, les gens du voyage, dis donc, ils risquent de tomber malades. Et ensuite, tous les argumentaires qui viennent, c'est... on a peur des gens du voyage, les vols vont augmenter, l'image touristique de la ville va en prendre un coup, c'est une trop grosse charge à gérer, etc., etc. Donc ces pétitions-là m'ont donné énormément d'indications. Et au final, le rejet, je peux dire, des voyageurs, ça a été une source d'information très importante pour mon travail. Après avoir croisé tout ça, j'allais chercher et localiser ces aires sur les logiciels de carte au satellite. Et j'ai fait tout ça à la main. Une par une, je suis allé les chercher, pointer, relever les coordonnées géographiques et ensuite analyser tout ce qu'il y avait autour en termes d'installations potentiellement polluantes et nuisibles. Donc j'avais une grille d'indicateurs géographiques et d'équipements que je classais comme potentiellement générateurs de nuisances, à la fois sur des bases scientifiques, mais aussi sur des bases de ressenti. Et ça, c'était important, je trouve, dans ce travail-là, de prendre une démarche du ressenti. L'aire de Concarneau, je l'avais classé comme proche d'une source de nuisance. Les habitants de l'aire de Concarneau m'ont appelé en me disant « Mais attends, tu nous as classé notre aire en vert, alors en fait, juste en face, on a une usine de déchets de poissons qui rend la vie juste impossible parce que toute la journée, on a ces odeurs pestilentielles, quoi. » Et du coup, on reste pas sur cette aire à cause de ça. Si j'avais pas eu des témoignages sur place, j'aurais pas pu le savoir. Et il y a eu une médiatisation de cette démarche par arrêt sur image. Et à partir de là, en fait, j'ai eu des tonnes d'appels de personnes qui vivaient sur les aires d'accueil et qui me donnaient plein d'indications. Et donc, c'est devenu un truc un peu participatif. J'ai recomptabilisé 1358 aires d'accueil. Alors, il en manquait un certain nombre, hein, puisque quand on fait un inventaire, c'est jamais tout à fait parfait. Au fur et à mesure, je mets à jour la base de données et aujourd'hui, elle est publiée sur un site qui s'appelle Vision Carto.
visioncarto.net. Et donc je vous diffuse un dernier extrait où William explique comment le racisme, notamment pourquoi un grand nombre d'aires en lien avec ce racisme en fait se retrouvent dans des espaces très pollués.
Faire un décortiquage de la presse locale m'a permis d'avoir un panorama des discours publics sur pourquoi on crée une aire d'accueil. Et en général, un maire, quand il doit créer une aire d'accueil, déjà il doit, donc c'est imposé et il le fait savoir à son audience. Il dit voilà, j'ai pas le choix. Et ensuite ils disent et puisqu'on n'a pas le choix, il vaut mieux le faire parce que ça nous permettra, en ayant une aire d'accueil, de bénéficier des procédures d'expulsion et du recours à la force publique en sollicitant le préfet, et ce, en moins de 48 heures, grâce à la question de la flagrance. Et donc, déjà, là, l'accueil, on se rend compte que c'est pas du tout l'hospitalité. C'est deux notions complètement différentes. Ensuite, le maire va dire à ses administrés, vous comme moi, on ne veut pas de ces gens à côté de chez nous. Donc, on va mettre l'aire d'accueil la plus loin possible. Mais en mettant l'aire d'accueil la plus loin possible, on se confronte à des coûts de raccordement électrique et d'eau qui sont plus chers. Et donc, pour réduire ces coûts-là, notamment de viabilisation de terrain et tout, on va la rapprocher d'autres terrains, d'autres espaces, et notamment des espaces pollués, en fait, de toutes les installations qu'on a éloignées des villes parce qu'elles créent des nuisances. Donc, on a des installations qui ont été éloignées historiquement pour des questions d'hygiène, comme les cimetières. C'est très souvent qu'on a des aires à côté de cimetières. Mais on a aussi des installations industrielles, des installations d'infrastructures routières, par exemple, mais aussi tout ce qui est décharges, carrières, etc. Et c'est très dur de vivre dans ces espaces-là. J'avais suivi une famille à Gex, dans l'Ain, qui vivait dans ce très beau pays, qui est le pays de Gex, magnifique, les montagnes et tout, c'était sublime. Puis tu as un endroit tout pourri dans la commune, qui est deux carrières, dont une a une exploitation illégale depuis plusieurs années, et un site de brûlage de déchets, et au milieu de ça, t'as une aire d'accueil. Et cette aire, en fait, ils vivent à la fois dans les fumées du brûlage de déchets, les vibrations des carrières, la poussière, Et en plus, ils ont une montagne de déchets devant leur aire parce que les gens, évidemment, viennent se servir de l'espace d'accueil comme un dépotoir, quoi. Donc, on a un enfer sur Terre.
Un enfer sur Terre. En tout cas, il y aurait eu d'autres choses à raconter cette semaine sur la question des voyageurs et voyageuses dans les médias, mais c'est pas du tout ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'était juste un traitement habituel, raciste, anti-tsigane, classique. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se reproduit. Alors, vous pouvez notamment retrouver la totalité de cet entretien avec William Acker sur le site de Radio Canu et le Jobug de Minuit Décousu. Vous pouvez retrouver cette cartographie aussi sur visioncarto.net et gratuitement son ouvrage qui s'appelle « Où sont les gens du voyage ?» sur le site des éditions du commun. Et puis évidemment, en attendant, on déplore une fois de plus le traitement raciste de l'actualité qui malheureusement n'est pas une spécificité de la question des voyageurs.
Que dire après tout ça?
Alors, rajoute-nous des bonnes nouvelles.
On va continuer dans les très bonnes nouvelles. Alors vous l'avez peut-être vu récemment, il y a le groupe Michelin qui a annoncé en grande pompe, à renfort de toute leur puissance de communication, le fait que ils verseraient désormais des salaires décents à ses salariés. Ça a été annoncé le 17 avril. Et du coup, ils promettent donc d'accorder à tous les salariés des rémunérations jusqu'à 3 fois supérieures au salaire minimum en vigueur, ainsi que ce qu'ils appellent un socle universel de protection sociale. A priori, finalement, moi quand je vois passer la nouvelle, je me dis c'est plutôt pas mal. Finalement, les salaires qu'on demande généralement, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais finalement, quand on se plonge dans le détail, alors évidemment, c'est intéressant pour les gens qui vont voir leur salaire augmenter. Ça, on va jamais le nier, et il faut jamais cracher sur le pognon qu'on peut récupérer dans les poches des patrons. Par ailleurs, on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette forme et qu'est-ce que c'est que cette mesure-là. Du coup, ce que Michelin dit, c'est qu'en gros, il y aura les calculs d'une organisation non gouvernementale, donc Fair Wage Network, sur la base d'une proposition des Nations Unies, qui, elle, aura pour charge d'établir le montant et les revalorisations des salaires décents chaque année, avec pour objectif de fournir aux salariés de quoi payer l'accès à l'eau, au logement, à l'électricité, à l'éducation, et même de quoi forger une épargne pour une famille de 4 personnes. Pour vous donner un peu une idée, par exemple, aujourd'hui, à Paris, ça donnerait un salaire de 2570 net par mois, et à Clermont, du coup, ce serait 1648. Donc évidemment, c'est calculé en fonction de où vous habitez. À noter quand même que dans certains pays émergents, ça peut atteindre 3 fois le seuil du salaire minimum légal. Par ailleurs, déjà, première petite arnaque, c'est le groupe Michelin qui fait son annonce, mais en fait, ça concerne que les salariés de l'entreprise Michelin directement. Donc on est à 7000 sur les 132000 du groupe, soit 5% des effectifs. On n'aura évidemment pas manqué, enfin Bruno Le Maire n'aura pas manqué de l'occasion de se fendre un petit message pour se réjouir de cette nouvelle, nous réexpliquant que la question des salaires est décisive, et nous on ne manquera pas l'occasion de lui mettre un petit tacle en lui rappelant que ça fait 7 ans qu'il nous casse les pieds au ministère et qu'on l'a jamais vu ne serait-ce que se réveiller en pensant à la question des salaires, si ce n'est pour rétablir un rapport de force beaucoup trop favorable pour le patronat.
C'est pas vrai du tout, il vient de proposer la simplification des bulletins de paie pour qu'on ne voit plus du tout ce à quoi nos cotisations offrent droit.
Il en fait des choses pour les salaires, il les baisse. Mais bref, bon, ça c'était le petit tacle réglementaire sur Bruno Le Maire. Mais on va quand même s'intéresser à la communication du groupe Michelin autour de ce truc-là, parce que quand même, une grande entreprise capitaliste qui donne dans le salaire décent et qui se préoccupe de ses salariés, quand bien même ça serait vrai, ça serait déjà trop tard. Mais par ailleurs, on se doute bien que c'est pas aussi simple que ça. Alors déjà, ils commencent par mentir en affirmant qu'ils n'ont pas calculé le coût de la mesure, que c'est pas très important, comme si l'objectif de Michelin c'était pas la rentabilité. Ils peuvent bien le dire autant qu'ils veulent, on ne les croira jamais sur ce truc-là. Par ailleurs, c'est là qu'on voit un peu où est leur démarche, c'est que le président du groupe a affirmé que les salariés, lorsqu'ils sortent du mode survie, améliorent leur performance. Et donc la hausse des salaires permettrait, en d'autres termes, d'augmenter la productivité des salariés et donc les résultats du groupe. Il y a donc là un aveu implicite décisif. La grandeur d'âme de Michelin n'est pas gratuite, mais bien conditionnelle. Et en conséquence, le produit des gains de productivité éventuels ne reviendrait pas aux salariés, mais bien au profit du groupe. Le mot important dans sa phrase est donc la survie. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir des salariés qui galèrent un tout petit peu moins dans leur vie réelle pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces au travail et qu'ils puissent mieux remplir les poches de Michelin.
C'est un vieux truc du paternalisme, hein.
Exactement. Et donc, ce qu'il propose finalement, Michelin, c'est de placer le salaire à un niveau d'équilibre entre ce qu'exige la rentabilité croissante de l'entreprise et le minimum vital des travailleurs. Par ailleurs, si ce retour sur investissement, hein, parce que pour eux c'est vraiment juste un investissement, ils mettent de la thune quelque part pour en récupérer plus, n'intervient pas, alors il faudra bien prendre des mesures de rétablissement de la rentabilité, car on n'oublie pas que c'est là leur raison d'être. Ces mesures, on les connaît, hein, ça va être des licenciements, plus de mécanisation, de la délocalisation, puisque le salaire il est indexé en fonction de la géographie. Autrement dit, ce niveau de salaire en fonction du lieu géographique va continuer de créer de la concurrence entre les salariés. Donc c'est absolument pas une garantie de protection de l'emploi pour les salariés. Et évidemment, le PDG de Michelin a bien précisé que sa politique sociale n'irait pas jusqu'à garantir la pérennité des sites de production. On rappellera au passage que sur les trois dernières années, l'équipementier a supprimé 2300 postes en France et 1500 en Allemagne. Mais ce n'est pas tout, puisque en avouant attendre de meilleures performances des travailleurs mieux payés, le président de Michelin insinue que ce qui est présenté comme un plancher de survie, en fait, va devenir un plafond. Et c'est là qu'est vraiment la manœuvre la plus dangereuse, puisque finalement, ce salaire décent sera la norme et sera surtout ce à quoi vous pourrez prétendre, mais vous ne pourrez jamais prétendre à plus. Comme ils sont engagés à le revaloriser régulièrement, de fait, il va y avoir un effet d'écrasement des salaires, puisque les salaires plus bas vont monter systématiquement. Et du coup, petit à petit, on va expliquer aux gens qui avaient la chance de gagner peut-être un tout petit peu plus de thunes, qu'il faudra qui revoient leurs prétentions salariales à la baisse, puisqu'on leur demande de se sacrifier pour les gens qui ont des plus petits salaires, puisque voyez-vous comme on donne des salaires décents aux gens qui ont des petits salaires, alors vous pouvez quand même pas demander plus, c'est pas moral, c'est pas juste, et c'est bien là toute l'astuce. Par ailleurs, c'est quand même intéressant cette façon de faire fixer le salaire par une ONG, avec laquelle en fait Michelin est forcément d'accord, sinon ils n'auraient jamais accepté ce truc-là, pour l'imposer aux salariés. Et ce qui rappelle en fait cette idée qui est dans la tradition paternaliste du patronat français, que les salariés en fait sont parfaitement incapables de déterminer quel est leur juste niveau de rémunération. Et ça, c'est une déresponsabilisation consciente. En fait, c'est une annonce qui a été faite, il n'y a pas eu de négociation avec les syndicats, il n'y a eu aucune décision prise en commun avec les syndicats. C'est le patronat qui, pour se présenter joli, est venu dire le salaire décent, on sait ça, déjà on leur demande pas leur avis pour savoir de quoi on a besoin de vivre, et surtout venir expliquer, voilà, vous avez besoin de ça pour vivre, mais du coup plus aucune négociation pourra exister derrière, puisqu'il y a une ONG internationale recommandée par les Nations Unies qui est venue nous expliquer de quoi on avait besoin pour vivre. Michelin, en grand bienfaiteur, l'a suivi pour donner un salaire pseudo-décent aux gens, et ça en fait, ça va être vraiment une manière de complètement niquer toutes revendications qui vont arriver, puisque finalement ça leur donne une réponse et un joker magique à chaque fois. Ah non, mais attendez, on vous donne le salaire décent fixé par l'ONG, les syndicats, les collectifs de salariés, toutes les négociations elles vont être bloquées, parce qu'en fait ça va leur donner un argument phare. Et on rappellera pour conclure que de toute façon, si jamais ça venait pas à marcher et qu'ils gagnaient pas plus de thunes en faisant ça, ce serait encore une fois les salariés qui paieraient.
La visite est disponible, libre et irréductible.
Canut Info.
Il est invisible, il est disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Les hommes forts, les hommes fiers, et féministe et solidaire et en colère.
Canu Info du vendredi.
Eh oui, on a eu la malchance d'apprendre hier qu'une décision rendue par une cour d'appel de New York a annulé une condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle. C'était une condamnation qui a été prononcée à son encontre en 2020 par le tribunal de New York et qui lui faisait écoper de 23 ans de prison. Alors, la cour a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant ce procès. C'est un procès qui a été un des plus emblématiques du début du mouvement MeToo et donc a ordonné un nouveau procès. Faut savoir que Harvey Weinstein, qui est maintenant à 72 ans, a par ailleurs été condamné en 2023 à 16 ans de prison pour viol par un tribunal de Los Angeles. Donc il reste en prison. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça fait même pas sortir Harvey Weinstein. Ce que ça fait dire, malgré ce procès-là, on annule ce procès-là. Malgré la libéralisation de la parole, malgré tout ce qui s'est dit, on décide que ce procès est caduque. Et les arguments de la cour sont ouf, parce qu'en gros, ils disent. On a entendu trop de témoignages à ce moment-là, et du coup, il y a des témoignages qui, dedans, n'ont pas été validés formellement par la justice pour être entendus. Et du coup, ces témoignages qui étaient en gros d'autres personnes qui avaient subi des agressions sexuelles, eh ben, ont orienté défavorablement la vision des juges, et du coup, le jugement est biaisé. Et c'est vraiment ça l'argument. C'est en gros, les personnes ont trop parlé, et ça dit même pas que ces témoignages sont faux. Enfin, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment terrible dans ce que ça veut dire de la prise en compte de la libéralisation de la parole et de la place du féminisme actuel. Et je trouve que voilà, ces arguments sont vraiment extrêmement choquants. Même si, voilà, au moins, on peut dire comment Hervé Weinstein ne sort pas de prison, mais finalement, c'est même pas tant ça l'enjeu. C'est vraiment regrettable que le tribunal ait annulé cette condamnation. C'est vraiment injuste pour toutes les personnes qui ont parlé, qui ont fait cet effort-là, pour toutes les personnes qui vont encore parler de ce que ça veut dire dans la prise en compte de la parole. Donc, depuis l'annonce de l'annulation de sa condamnation pour viol, le mouvement MeToo, les personnes victimes, accusatrices et associations féministes ont dénoncé un recul sans précédent de la lutte contre les violences sexuelles. Et c'est un recul qu'on peut que déplorer. Eh ben, je vais continuer dans les mauvaises nouvelles, parce qu'en vrai, on vit un énorme backlash vis-à-vis du mouvement féministe actuellement, qui est terrifiant. Et c'est aussi le cas en Italie, où des associations anti-IVG auront bientôt le droit d'entrer directement dans les cliniques italiennes. Il faut savoir que les Italiennes doivent déjà obtenir un certificat médical pour pouvoir avorter, donc c'est déjà toute une procédure qui est beaucoup plus contraignante que la procédure en France. Mais désormais, des militants anti-IVG pourront venir tenter de dissuader les femmes de recourir à une IVG. Et ça, vraiment, c'est Giorgia Meloni qui essaye petit à petit de restreindre l'accès à l'avortement. Et donc, ça passe par cette décision. C'est une décision donc des députés italiens d'autoriser la présence de militants ou d'organisations anti-avortement au sein des cliniques et des centres médicaux qui délivrent donc ces attestations médicales pour avorter. Et c'est une décision qui a été prise le mercredi 17 avril, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Elle a été adoptée par amendement dans un paquet de lois voulues par le gouvernement d'extrême droite. Et donc ça donne encore un sérieux coup d'accélérateur à la volonté de la première ministre de réduire l'accès à l'IVG dans le pays, en dissuadant les Italiennes par tous les moyens, quitte à ce que du coup ces associations occupent une place de choix dans les cliniques italiennes. Alors le vice-premier ministre Antonio Tajani assure que la nouvelle mesure, qui doit encore être adoptée par le Sénat, mais apparemment le Sénat va l'adopter, n'a pas pour objectif de faire changer la loi sur l'avortement en Italie. On en est là. Enfin, genre vraiment, le vice-premier ministre...
Plutôt que de changer la loi, empêcher les gens de le faire.
On
ne
va pas changer la loi. Il prône néanmoins l'absence de criminalisation de ceux qui sont contre l'avortement. Donc là, on remet vraiment au même niveau.
Qui était sans doute extrêmement criminalisé.
Et il ajoute que la liberté de conscience sera toujours permise sur des questions de ce type. C'est vraiment terrifiant. Hein. Évidemment, les partis démocrates ont réagi. On dit la droite continue d'afficher sa nature nostalgique et sa vision obscurantiste et patriarcale en essayant par tous les moyens d'éroder le droit des femmes. Alors là, je le retrouve plus dans mes papiers, mais je me souviens que j'avais lu, oui, c'est ça quand même, que 63% des gynécologues italiens refusent déjà de pratiquer l'IVG. Enfin, l'accès à l'avortement en Italie est vraiment déjà difficile, et avec tout ce truc de clause de conscience, on a le droit de faire comme on veut. Alors effectivement, c'est légal dans la loi, mais l'accès réel à l'IVG est catastrophique en Italie. C'est un chiffre, là, 63% de ces gynécologues italiens qui refusent de pratiquer l'IVG, qui est en constante progression du fait de, notamment, la politique menée par Giorgia Meloni pour réduire l'accès à l'avortement dans le pays. Pour vous dire, dans la région des Marches, située sur les bords de l'Adriatique, c'est une région qui est dirigée par les Frères d'Italie, donc le parti de la première ministre italienne, elle a réussi à restreindre l'accès à la pilule abortive aussi. Donc restriction à tous les endroits. Courage aux copines italiennes.
Puis si on peut dire un mot, ça permet quand même aussi de montrer quand même qu'à un moment, on a certaines analyses qu'on peut entendre, parfois sur certaines ondes, qui disent, mais globalement, quand les fascistes arrivent au pouvoir, ça ne change pas grand-chose. En plus, la Union européenne qui veille au grain, regardez, économiquement, c'est pas un drame. Ouais, mais il se passe quand même des choses qui sont extrêmement concrètes et qui vont dans un sens absolument à chier. Et il faut quand même s'en inquiéter.
And now in the Canu Info.
Rubrique 1P.
international. International.
Rubric.
Cronaca internazionale.
Et oui, les dérives fascistes sont partout, et Union européenne ou pas, puisque là, on va vous parler du Royaume-Uni, qui vient d'adopter une loi vraiment pire que dégueulasse. On va reprendre une loi pire que dégueulasse, dont le but est en fait d'envoyer au Rwanda les demandeurs et demandeuses d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Alors ça, il faut se rappeler, hein, c'est une vieille marotte de plein de fachos. Il y a le Danemark qui avait voulu faire ça à un moment, qui voulait dire, pour faire une demande d'asile au Danemark, il faut la poser, je sais plus si c'était en Libye ou ailleurs, peu importe. En tout cas, voilà, c'est une vieille marotte de tous les fachos, et malheureusement le Royaume-Uni a adopté du coup cette loi cette semaine. Du coup, ça faisait un petit moment qu'ils essayaient de la faire passer. Seulement, il se trouve qu'il y a encore 2-3 trucs, 2-3 jalons du droit qui protégeaient tout ça, et entre autres le fait que le Rwanda n'était pas défini comme un pays sûr, puisque comme l'ONG Amnesty International l'a documenté, il y a beaucoup de détention arbitraire, des cas de torture, des gros problèmes sur la liberté d'expression, qu'il y a une quasi-interdiction de la liberté de manifester, ce qui n'en fait pas un pays sûr. Et
c'est
bah
aussi
du coup
un pays en guerre avec le Congo.
Voilà. Donc ça, dans le premier projet de loi, il avait été retoqué puisque finalement le Rwanda n'était pas un pays sûr aux yeux du Royaume-Uni. Seulement, bah, le problème de cette liste de pays sûrs et pas sûrs, c'est que finalement c'est l'État qui décide. Et qu'est-ce qui a changé ? Eh bien juste, la liste des pays sûrs a accueilli le Rwanda, la liste des pays sûrs donc aux yeux du Royaume-Uni. Du coup, leur délire, c'est vraiment... toutes les personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire et qui se font choper vont se retrouver temporairement dans un équivalent d'un CRA, mais surtout vont se retrouver en avion, quelle que soit leur nationalité, que vous veniez, j'en sais rien, d'Algérie, de Colombie, de Chine, ou peu importe, tant que vous n'êtes pas de l'Union Européenne, puisqu'il y a encore Schengen, mais vous allez vous retrouver dans un charter qui va vous envoyer au Rwanda, dans ce qu'ils appellent un centre d'accueil, hein, on appelle ça un CRA délocalisé quand on comprend de quoi on parle, et ça en toute tranquillité. Alors évidemment, hein, toute l'Europe crie au scandale, etc., en oubliant que quand même un certain nombre des membres de l'UE ont déjà voulu mettre ça en place, et malheureusement ça arrivera. Et par ailleurs, il y a aussi le Rwanda qui se félicite de ça, puisqu'en fait c'est aussi une belle manne financière, puisque finalement, pour les 300 premiers migrants, par exemple, ça coûterait 1,8 million de livres au Royaume-Uni, qui versera directement au Rwanda. La conversion, on va pas vous faire les conversions, mais c'est semblable à l'euro, donc c'est des sommes astronomiques en fait qui vont être dépensées par le Royaume-Uni pour évacuer les gens qui vont se retrouver finalement au Rwanda en venant de n'importe où et avec aucune garantie sur leurs conditions d'accueil et aucune garantie que leur demande sera étudiée correctement et aucune garantie de, en fait, qu'est-ce qui se passe après si les personnes sont déboutées. On n'en sait rien du tout.
Tout ça est mis en place par des crétins Toto, puisqu'on a notamment vu, Toto étant le pluriel de Total et n'ayant rien à voir avec le fait d'être autonome, puisqu'on a notamment vu un passage télévisuel absolument hallucinant où il y a le ministre des Affaires étrangères qui vient présenter ce projet absolument effroyable, et dans le public, il y a une personne qui réagit, qui mentionne le fait que lui, en fait, il vient du Congo, et il dit, mais en fait, si par exemple ma famille a essayé d'émigrer ici, et le Congo étant en guerre avec le Rwanda, on les renverrait vers un pays avec lequel ils sont en guerre. Et à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères britannique découvre que le Congo et le Rwanda sont deux pays différents.
Waouh.
De toute façon, ces endroits sont peuplés par des Noirs. Pour eux, c'est strictement la même chose. C'est complètement hallucinant, quoi. Voilà, rappelons aussi un dernier point quand même, c'est-à-dire qu'effectivement il y a aussi ce rôle-là là, d'externaliser les CRA. En fait il est déjà aussi partiellement joué par la Turquie, notamment par la Libye, par le Maroc, pour toute l'Union Européenne. Il y a Frontex qui a sorti son nouveau clip de propagande aujourd'hui, je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment une grande dinguerie. Donc c'est un truc qui essaie de recruter pour s'engager, etc. C'est très 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 beau, mais enfin, il y a vraiment déjà cette mécanique-là d'enrôlement de pays des Suds dans une logique.
Mais qui n'est pas dans le droit strict. Là, c'est vraiment le fait d'arriver jusqu'au pays, parce qu'on pense à toutes les personnes qui meurent en essayant de traverser, enfin, la Manche, évidemment, mais évidemment, surtout les trajets avant, qui arrivent enfin là pour se retrouver réexpédiés, soit en marche arrière, soit en marche de rien du tout, juste ailleurs, après avoir enfin atteint ce pourquoi elles se sont donné tant de mal, ce qui est quand même tout à fait terrifiant.
C'est une étape supplémentaire. Tout à fait.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Eh bien, avant de vous parler des animaux, on va vous parler de l'agenda.
Ah, j'ai où ?
Mais c'est pas grave, comme ça, les animaux pourront aussi noter dans leur petit agenda, si, ou dans leur gros agenda, si c'est des ours, par exemple, ce qui leur fera plaisir dans la semaine. En tout cas, samedi 27, bah, c'est pas plus tard que demain, il y a le réveillon des luttes à la Rayonne. Ça commence à 13h, il y a plein de concerts. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas au réveillon des luttes, il y a une radio locale bugiste, donc du Buget, parce que c'est pas toujours évident, qui s'appelle Les Pieds dans le Plateau, qui fait une soirée de soutien pour pouvoir avoir du matos à elle. Ça commence à 16h, c'est sur le plateau d'Hauteville, à la salle des fêtes même d'Hauteville, et jusqu'à 23h55 précisément, avec plein d'animations, des battles de rap, des concerts du DJ set et tout le tremblement.
Vous pouvez même écouter les anciens lives de Radio Plateau sur internet en allant en tapant les pieds dans le plateau
.fr. Une radio qui allait bien, on vous la recommande. Le mercredi 1er mai, bah du coup c'est le 1er mai, donc il y a une manif, devinez quoi. Voilà, il y a la manif et ensuite il y aura le repas de quartier de Radio Canu auquel on vous invite à venir. Bah c'est après la manif, finalement vous suivez, il y a un petit cortège qui va vers la place Sato.
C'est le cortège du repas de quartier, il a plein de nourriture sur lui.
En tout cas, Radio Canu fournit le punch et il y aura même de la radio en live. Venez donc voir ça, ça va être très très sympa. Quoi d'autre pour continuer ? Il y a des concerts. Ah bah une fois que vous serez allé au... C'est une grosse journée, hein, toujours le 1er mai, mais une fois que vous serez venu au repas de quartier et bu un petit coup de punch en mangeant une quiche, vous pourrez aller au concert gratuit d'Ultramoule et de Duo Almulette, pardon. C'est à 17h à Zinc A. Et enfin, vendredi, si jamais vous n'avez pas envie d'écouter les infos, vous pourrez aller à la Griffe à partir de 18h30 pour une discussion sur les micropolitiques au sein des groupes. Et ça, c'est à la librairie La Griffe.
Et tout à fait, et donc on revient aux animaux qui ont bien noté dans leur petit ou gros agenda.
Vais revoir un rouminet.
En plus, c'est une toute petite rubrique animaux, c'était pour faire un petit pense-bête. Attention, ce qu'on lit sur les animaux, souvent il y a un biais sexiste. Parce que oui, qui est-ce qui fait les études sur les animaux ? C'est les humains. Et les humains, ils vivent dans quoi ? Le patriarcat. Et ça paraît un peu évident dit comme ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. Par exemple, vous voyez Charles Darwin, on voit bien qui c'est Charles Darwin. C'est un peu la personne qui a permis de comprendre la théorie de l'évolution, qui s'est intéressée aux animaux. Et bien, sachez que dans son Origine des espèces, qui a été publié en 1859, il n'y a pas de femelle. Parce que vous savez, pour les animaux, on dit souvent femelle et mâle pour séparer deux espèces. Et bien là, il n'y en a pas. C'est uniquement sur la théorie de l'évolution, comme si il y avait un archétype par race comme ça et pas de différence. Et quand on dit ça, ça veut dire bien sûr que ce sont les mâles hein, qui sont étudiés. C'est pas, il n'y a pas de différence parce qu'on a aboli le genre. Hein. Attention, il n'y a pas de différence parce que comme dans la santé chez les humains, et ben on s'intéresse que aux mâles. Et du coup, ça fait une vision qui est tronquée ou qui peut être aussi exotisée en se disant ah tiens, ben les femelles, elles s'intéressent qu'à la maternité, elles s'intéressent. Et du coup, ça joue dans notre manière d'appréhender l'éthologie. Donc on va dire qu'elles sont passives, c'est les mâles qui se battent par exemple. Et vous voyez, quand on regarde les documentaires animaliers, c'est tout le temps ça. On a les femelles qui s'occupent des petits et les mâles qui se battent. Sauf qu'en fait, quand il y a d'autres personnes, par exemple des meufs qui deviennent zoologistes, et ben on voit que c'est plus complexe que ça, en tout cas chez certains animaux. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, à voir que, ben, par exemple, il y a des comportements brutaux aussi chez les femelles, que c'est aussi elles qui font le choix de la sélection biologique et du coup le choix du partenaire, le choix du mâle. On peut citer la femelle du canard qui a un vagin sophistiqué qui lui permet de choisir sa descendance même quand il y a des accouplements forcés, par exemple. On peut se dire que, par exemple, chez les antilopes topis, les femelles, elles se battent à coups de corne pour décider avec qui est-ce qu'elles vont copuler. Voilà, c'est plus complexe que les images qu'on peut avoir. Et surtout, là où c'est plus complexe, c'est que parfois, les femelles, elles mènent aussi des vies sexuelles qui sont libérées et qui ne sont pas forcées ou imposées, comme c'est quand même le cas, hein, chez plein d'espèces animales, mais ce qui est surreprésenté dans les documentaires animaliers. On peut voir qu'elles sont autoritaires chez les hyènes ou volages comme 90% des femelles oiseaux. Elles dirigent les groupes comme
chez... C'est un peu normal pour des oiseaux.
C'est vrai. Que voilà, qu'elles peuvent diriger des groupes comme chez les éléphants et les orques, par exemple, ou former des coalitions. On voit ça chez les bonobos. Et puis aussi, on peut voir que du coup, il y a des espèces qui se disent la sexualité, quand même, c'est quand même beaucoup trop souvent forcé, ça sert un peu à rien, on n'a qu'à s'en passer. Et du coup, c'est notre manière, par exemple, de penser l'hermaphrodisme. Enfin, vous voyez comme c'est politique la manière dont on a de présenter aussi les comportements, évidemment, les comportements des animaux qu'on analyse avec nos propres grilles. On peut citer évidemment plein de crustacés, plein de poissons clowns qui n'ont pas de sexualité, ou enfin, en tout cas des sociétés hermaphrodites, ou par exemple le Serranus tortugarum qui pour sa part est capable de changer de sexe jusqu'à 20 fois par jour. Par jour.
Il ressemble à quoi ?
Eh ben, je ne sais pas.
Qui es-tu ?
D'ouvrir image, pas sur Google, mais sur un moteur de recherche libre. Voilà, eh ben, c'était un petit point dans cette rubrique animaux. Alors, il y a des bouquins qui parlent de ça, si vous voulez. Il y a un bouquin, par exemple, qui s'appelle Beach, qui a été publié par Lucy Cook, qui reprend un peu au niveau des anecdotes. Tout ça, si vous voulez avoir plein de petites anecdotes sur plein d'espèces animales. Mais je trouve aussi à garder en tête dès qu'on s'intéresse à la question.
Absolument, si vous cherchez des castors sur les berges, sachez qu'il y a aussi des femelles castors.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu.
Qu'est-ce que ça veut dire, Acab ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Eh bien, Mathieu, comme tu l'as entendu, mercredi, c'est le 1er mai, et je crois que le 1er mai, eh ben, on dit « annulons le capitalisme et arrêtons de bosser ».
Allez. On se met bien le 1er mai, évidemment, le 1er mai, rejoignez tous les cortèges, rejoignez évidemment le repas de quartier fameux, le punch de Radio Canu, la radio en direct de Radio Canu.
Vous pourrez peut-être voir nos têtes. Doudoudou.
Sans doute croiser vos animatrices, animateurs préférés, singuliers et reconnaissables grâce à des voix idylliques et connues.